Bien, alors il est déjà minuit 15. Alors, comme promis, nous allons rejoindre immédiatement Maître Jean-François Gay pour la chronique Prendre la route. Salut Jean-François.
Salut Jacques.
Monsieur a passé une belle fin de semaine?
Oui, j'avais profité, je me suis promené en cabriolet en fin de semaine, puis disons que c'était une des plus belles fins de semaine de l'été, en tout cas pour moi en tout cas.
C'est vrai qu'il a fait beau en fin de semaine.
Oh, il a fait très beau, il faisait pas trop chaud, il y avait toujours un bon petit vent.
Oui.
Puis à ce temps-ci de l'année, hein, j'ai toujours l'impression que l'air me semble plus pur que durant les mois de juillet, que durant le mois de juillet.
Faudrait vérifier la pureté de l'air, mais t'as peut-être raison. Parce que soudainement, l'air est plus pur parce que c'est le... Nous sommes à la veille de l'automne, j'en ai aucune idée. On va laisser ça aux experts. Tu t'es promené avec une... Quel genre de cabriolet?
Ah, une Mazda Miata.
Ah.
Ben, une Mazda Miata. J'étais un vieux de la vieille, comme on dit, parce qu'on dit maintenant MX-5, là, depuis plusieurs années.
Mm-hmm.
Mais c'est le petit cabriolet de Mazda. Disons que c'est le cabriolet le plus vendu de l'histoire, genre avec plus de... 1 million d'unités qui ont été fabriquées là, depuis le lancement de ce véhicule-là en 1989.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas grand, c'est tout petit. c'est deux gros gaillards comme moi puis toi, là, je te dis qu'on aurait eu les coudes un peu serrés là, dans l'habitacle.
Et ce serait dur pour les amortisseurs.
Dur les amortisseurs, puis je te dirais que toi, t'es quand même assez grand. Là. Peut-être que
oui, mais j'ai beaucoup maigri, par exemple.
Ouais, oui, mais... T'as maigri du côté l'épaisseur et pas ouais, là, sur la longueur.
Non, pas sur la longueur. Non, ça, toujours à six pieds.
Oui, exactement. Donc, c'est sûr que les gens qui ont des... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Des grandes jambes, là, si on peut s'exprimer ici. Là, mm-hmm. C'est pas très grand. Mais cela dit, c'est toujours quand même... très toujours amusant là, de se prendre avec ce véhicule-là, surtout quand on le conduit. Comme passager, par contre... c'est un autre paire de manches.
Oui.
Mais côté amusement là, sur la route, là, c'est.
Et en plus, c'est un bon véhicule pour faire de la livraison du guide de l'auto 2022. Tu es venu me porter le guide de l'auto 2022 qui est maintenant disponible et qui est maintenant en vente. J'étais pas à la maison, mais ma conjointe t'a vu. Oh. Elle a eu un petit peu peur, elle dit « c'est qui ça? » Et finalement, je lui ai expliqué que c'était mon ami. Mais c'est parce que t'étais masqué, je pense.
Ben masqué, lunettes fumées.
C'est de ce temps-là, quelqu'un arrive masqué, on sait pas trop. Hein?
Ben, c'est effectivement, puis j'avais tout emballé ça comme il faut, hein, au cas où qu'il pleuve en ton absence.
Mm-hmm.
Et quelqu'un qui savait pas aurait pu penser que c'était un colis suspect.
Oui, exactement. Alors, faut toujours faire attention. Donc, le guide de l'auto 2022 est déjà en vente. Vous avez travaillé fort toute l'année. Vous êtes un paquet de collaborateurs. Et ça donne les résultats que ça donne, finalement. C'est un excellent ouvrage de référence pour les amateurs d'automobile.
Mais tu sais qu'on est rendu à 17 auteurs, là, 17 mm-hmm. journalistes automobiles là, dans le guide. Là, c'est beaucoup. Mais que voulez-vous? C'est un livre qui a pratiquement 700 pages. Et si on regarde tous les essais routiers qu'il y a dans le livre, plus hein, il y a toujours les sections là, qui reviennent d'une année à l'autre, là, qui font que le guide de l'auto se distingue là, sur le marché. Vous avez une section qui présente les concepts, les prototypes, ça c'est à dire des véhicules à venir, là, du coup dans le futur. Vous avez la section des meilleurs achats. Vous avez trois matchs comparatifs. Puis ceux qui aiment les véhicules électriques, là, ben vous avez quatre véhicules électriques qui s'affrontent, quatre VUS, la Tesla Model Y, le nouveau Volkswagen ID4, le Volvo XC40 Recharge qu'on pourra parler éventuellement, et la Mustang Mach-E, ou le Mustang Mach-E. Et en passant, je vais avoir ce véhicule-là la semaine samedi prochain, ça va être la balade de rêve, là, pour la Fondation de Renfort dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je vais être au volant d'un Mustang électrique.
Bon, bien, parfait. Alors, excellent. Donc, disponible un peu partout dans toutes les bonnes librairies, j'imagine, dans les grandes surfaces.
Exactement.
Parfait. Tu as mis la main sur les marques ayant la meilleure qualité de fabrication. Ça vient d'où, ça, exactement?
Ça, c'est la firme J.D. Power. C'est une firme américaine qui s'est construite une solide réputation dans le domaine, là. Eux, ils font des sondages à tous les ans sur la fiabilité des véhicules. Et là, il y a un autre sondage qui est fait aussi à tous les ans. C'est sur la qualité initiale de fabrication des véhicules neufs, on s'entend. Ça, c'est-à-dire que ils font un sondage auprès des locataires des véhicules, des acheteurs.
Monsieur, oui, une chance qu'ils m'ont pas appelé. Ça a l'air qu'ils posent 223
questions. 223
questions,
110 000, 111 000 personnes ont répondu au sondage. Et ça, ils vérifient voir si les gens ont des problèmes dans les 90 jours suivant la prise de possession du véhicule.
Ben, ça, c'est rare que tu aies des problèmes les premiers 90 jours.
Pas nécessairement, genre, non. Parce que des fois, c'est là que ça va se manifester. Parce que quand ça sort d'usine, il faut savoir si c'était bien assemblé, tout ça. Et si on regarde le nombre de problèmes qui peut dégager là, du sondage...
Mais il vaut mieux que ça se manifeste au moment où la voiture est encore garantie.
Effectivement. Parce que si on regarde la marque qui a eu le moins de problèmes, elle a eu 120, on compte qu'il y a eu 128 problèmes par 100 véhicules.
Mmh.
Donc, ça veut dire 1,28 problèmes par véhicule. Puis si on regarde la marque qui a eu le plus de problèmes, là, on parle de 251 problèmes par 100 véhicules. C'est quand même, c'est le double, c'est pratiquement le double.
Alors, c'est quel modèle qui a eu le plus de problèmes?
Il y a plus de problèmes, mais c'est là que... ce qui est bizarre, c'est la marque Chrysler, avec 251 problèmes par 100 véhicules.
Mm.
Par contre, si on regarde la marque qui a eu le moins de problèmes, c'est Ram, qui fait partie du même groupe. Hein. Ram, c'est des camionnettes Dodge, des anciennes camionnettes Dodge. Et Ram et Dodge, c'est les deux marques qui ont terminé en première et en deuxième position.
Donc, attends un peu, là. J'ai de la misère à te suivre. Là, tu dis que Ram n'a pas eu, c'est les meilleurs sur le marché?
Au niveau de la qualité de fabrication, pour les véhicules 2021...
Ben oui, mais là, tu marques en parenthèse Ram, 128 problèmes pour 100 véhicules. Une chance, ça va bien?
Ben, ils ont quand même des problèmes, mais c'est eux autres quand même qui ont le moins de problèmes.
J'imagine.
Mais oui, c'est ça, Chrysler. Si tu regardes Chrysler, eux autres, ils ont 251 problèmes par 100 véhicules. Et Audi, qui est avant-dernier, c'est 240 problèmes par 100 véhicules. Puis vous avez Tesla, hein. On parle souvent de Tesla là, au cours des derniers mois. Tesla est quand même à la fin là, du classement avec 231 problèmes par 100 véhicules. Et Tesla, on sait qu'ils font jamais les affaires comme les autres parce que eux, ils refusent de collaborer avec J.D. Power. Donc, le sondage a été réalisé seulement dans 35 États américains sur 50.
Ouais, mais quand même. Ça donne une bonne indication. Mais là, évidemment, on ne parle pas de problèmes majeurs dans la plupart des cas, là, parce que sinon ce serait épouvantable. Là.
Ben, c'est la plupart.
Est-ce qu'on donne des détails là-dessus ou non?
Oui, j'ai des détails parce que tu vas te reconnaître. Parce que la plupart, au cours des dernières années, là, puis encore cette année, le principal problème, c'est le système d'infodivertissement.
Ah, oui, ça m'est arrivé, oui. Oui,
qui représente au moins 6 problèmes sur 10. Et la principale plainte va concerner l'utilité Android Auto et Apple CarPlay. Je sais pas si vous avez les auditeurs qui nous écoutent, les auditrices aussi. Si vous avez, moi, là, à toutes les fois que je change de véhicule, ben, moi, je l'active pas, le Apple CarPlay, parce que j'ai un iPhone, parce que ça devient problématique. Moi, je préfère, là, vraiment fonctionner avec le GPS du véhicule et avec le système Bluetooth, là, qui est le plus simplement possible. Parce qu'autrement, là, ça devient problématique. Mais cela dit, J.D. Power, ils font pas juste vérifier.
Et en passant, quand ça brise, là, puis c'est pas... parce qu'ici, on a un copain de travail que je ne nommerai pas, là,
ouais.
Qui, deux semaines, je pense, après avoir fait son dernier paiement sur sa voiture, il y a eu des problèmes, justement, avec l'informatique, avec l'électronique de sa voiture. Je pense qu'il y a eu une facture de 3 000
$. Ben oui, c'est sûr.
C'est pas des farces, là.
Non, c'est pas des farces. Puis surtout, ça dépend aussi, si on regarde là, le classement, les marques, généraliste, là. Quand je parle de généraliste, moi, je pense à Dodge, je pense à Hyundai, je pense à Chevrolet, tout ça. C'est des marques qui ont le moins de problèmes, parce que les marques de luxe cette année, vraiment, là, sont au-dessus de la moyenne au niveau des problèmes, parce que il y a trop de systèmes électroniques, puis c'est devenu de plus en plus compliqué.
Dis-moi donc, penses-tu que les assureurs regardent ce genre de sondage, de classement et en se disant, ben s'il y a quelqu'un, je sais pas moi, qui a tel ou tel véhicule qui est pas très bien coté, qui semble avoir des problèmes assez permanents, puis bon, est-ce que ça peut coûter plus cher? Je sais pas si...
Ben, c'est une bonne question, parce que c'est sûr que les assureurs, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est le coût de remplacement des pièces. Mettons, si vous avez un accident, ben, eux autres, ils vont vérifier là pour reconstruire un véhicule, le coût des pièces. Donc, on s'entend que si vous allez dans les marques allemandes, Mercedes, BMW, Audi, que ce soit aussi Porsche, mais c'est sûr que le coût de remplacement des pièces est beaucoup plus élevé habituellement que les voitures américaines, japonaises ou coréennes. Ça, ça va jouer. Mmh. Aussi, ils vont regarder le vol, hein, parce qu'il n'y a pas juste des accidents. Le vol, ben, c'est sûr qu'il y a des marques qui sont plus volées, des modèles aussi. Ils vont regarder aussi, bon, la région où vous demeurez. Parce qu'il y a des gens où il y a des régions au Québec où il n'y a pratiquement pas de vol de véhicules, alors que d'autres battent des records là, d'une année à l'autre. Alors, ça va jouer aussi.
Oui. Alors donc, si on se résume pour ce dernier sondage, on peut dire, de cette de la maison, comment est-ce qu'on les appelle? Power?
JD Power.
Oui, JD Power. Alors, donc, c'est pour le moment, c'est Chrysler qui n'a pas tellement la cote. Et on s'aperçoit également que les voitures que les gens paient très cher, style Audi, Tesla, tout ça, Volvo, Alfa Romeo, Land Rover, alors c'est ils ont leur part de problème, autrement dit.
Ils ont leur part de problème. Par contre, si on regarde les marques qui ont performé, là, ça, je pense, ça mérite là, de souligner. Oui. On parle de Ram en première position, Dodge en deuxième. En troisième, c'est pas une surprise, Lexus, qui, pendant des années, s'est toujours occupé le premier rang. Par contre, une surprise de taille, c'est Mitsubishi. Mm-hmm. Mitsubishi qui est en troisième position. Nissan, ça, c'est une belle surprise, parce que Nissan, au cours des dernières années, là, il a éprouvé des petits problèmes, mais là, il remonte la pente, donc on est en quatrième position. Cinquième position, c'est pas une surprise, c'est Kia. Tu sais, puis pour moi, c'est pas une surprise parce que je vérifie ces sondages-là à tous les ans. Mais si on regarde, on discute avec les gens, on dit souvent, ah, Kia, ça n'a pas de valeur de revente, tout ça, mais peut-être, mais c'est des bons véhicules avec une. Ouais. Véhicules qui sont de plus en plus fiables aussi, avec Hyundai.
Mm-hmm. Alors, il y a Genesis, il y a Hyundai, Jeep, Chevrolet, la Mini également aussi, c'est que. On pensait que c'était une voiture à problème. Ben, pas tant que ça. Il y a Buick, Toyota et finalement Ford parmi les plus fiables, disons. Parfait. On va faire une pause, Jean-François, et ensuite, on va parler des essais routiers.
Voici Jacques Fabi.
Oui, alors nous sommes de retour avec Maître Jean-François Gay. C'est la chronique Prendre la route. Alors, Jean-François, j'aimerais qu'on revienne brièvement sur le guide de l'auto 2022. T'as oublié de nous dire tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant, moi, il y avait un dossier sur Gilles Villeneuve, c'est ça?
Ben oui, le pilote Gilles Villeneuve, un dossier de 16 pages, passablement complet, même très complet, là,
oui, ah oui.
Qui relate sa carrière, là, que ce soit sa vie personnelle, les véhicules qu'il a eu dans sa vie. On parle aussi, bien entendu, du côté de la Formule 1 et ses motoneiges. Hein? On l'appelait la bébite. Là. Il y avait le motoneige monoplace quand il faisait de la course en motoneige. Donc, pourquoi que le guide a décidé ça? C'est parce que ça va faire 40 ans en 2022 là, que Gilles nous a quittés. Hein? C'est arrivé. Son accident est arrivé au mois de mai 1982.
Oui, en Belgique.
Oui, donc...
Ça fait-tu 40 ans déjà?
Ben oui, on ne rajeunit pas. Hein, ça
et
va.
Monsieur, je m'en souviens comme si c'était hier, ouais. Ça fait déjà 40 ans.
Ça fait 40 ans.
C'est pas des farces.
Puis tu vois, là, genre, qu'on parle de ça, moi, là, cet événement-là, ça m'avait frappé. Je me rappelle où j'étais quand ils avaient annoncé ça à la radio, un peu comme on a souligné le 11 septembre, là, en fin de semaine, samedi. Ouais.
20 ans aussi, déjà.
Oui, puis tout le monde se rappelle, la plupart des gens se rappellent où ils étaient le 11 septembre, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. Puis Gilles Villeneuve, moi, c'était un peu la même chose. Là. Je me rappelle.
Écoute, je me souviens, moi, où j'étais quand John F. Kennedy a été assassiné.
Bon.
Ça fait longtemps, ça aussi.
Moi, je n'étais pas né encore, mais...
En 1963.
Oui.
Tu n'étais pas né encore, non?
Je n'étais pas né encore, non. Bon. Qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu faisais en 63? Ben,
j'étais chez moi à la maison.
Au mois de novembre, oui.
J'étais un petit garçon d'une dizaine d'années. Alors, mais à cet âge-là, on est très fortement impressionné quand ces choses-là arrivent. Je me souviens très bien de ça, oui.
Ah, bon.
Ouais. Quand c'est sûr que, là, comme je te dis, j'avais 10 ans, alors j'étais à la maison, mais je me souviens très, très bien de cet événement. Bon, ben pas trop de nostalgie. On va revenir à nos essais. Ben, on va parler des essais routiers. T'as essayé, t'as conduit, au cours des derniers jours, le nouveau Hyundai Tucson hybride.
Oui, puis c'est la version hybride. J'ai pas encore essayé la version avec le moteur d'entrée de gamme, si on veut, le moteur atmosphérique. Donc, ça fait une entrée pour moi un peu flamboyante dans le sens suivant, c'est que pour moi, c'est l'une des révélations de l'année 2022 parce que c'est un 2022, on s'entend, qui a été, c'est une nouvelle génération. Et je dois vous dire que Hyundai, là, ils surpassent, là. Parce que c'est sûr qu'ils avaient quand ils ont conçu ce véhicule-là dans le collimateur, le Toyota RAV4 et le Honda CR-V. Honda CR-V qui est vraiment dû là, pour une refonte majeure. Et quant au RAV4, mais le hasard a voulu que la journée que je remette le RAV4, ben, j'ai pris possession du Tucson là, dans les minutes suivantes.
Mmh.
Et j'étais... Bon, première des choses, si vous regardez le design de ce véhicule-là, entièrement redessiné. C'est un véhicule aussi qui est plus gros. C'est un véhicule aussi qui donne aussi la nouvelle signature visuelle de Hyundai. Il faut dire que c'est une signature visuelle qui est toujours qui se modifie là d'une année à l'autre, parce que on pourrait pas dire qu'il y a une tendance qui se maintient, qui se dessine du côté de Hyundai. Parce que si on regarde le Tucson, puis on regarde le nouveau Santa Fe, ben on peut pas dire que c'est deux petits frères. Là. C'est deux frères. C'est vraiment deux véhicules qui n'ont pas vraiment les niveaux esthétiques, là, qui ne se ressemblent pas du tout.
Mm-hmm.
Le Santa Fe, le Tucson a des phares à l'avant qui se distinguent vraiment, là, parce que vous avez des phares, il y a plusieurs phares en étage, si on veut, les uns au-dessus des autres. À l'arrière, si on regarde les feux arrière, vous avez l'impression de reconnaître la Mustang Mach-E, hein, la Mustang électrique. Et cela dit, au niveau du design, c'est réussi. À l'intérieur, ben là, c'est assez... une petite touche futuriste qui ne ressemble pas non plus au Santa Fe, sauf qu'on retrouve sur la console centrale des commandes pour la transmission, la boîte de vitesse. Là, c'est pas une molette, c'est pas un petit levier, c'est plutôt des boutons pressoirs qui sont bien placés, qui sont faciles à manipuler, contrairement à certains modèles concurrents. Et moi, ce qui m'a épaté, Jacques, c'est la finition intérieure. Si on regarde la qualité des cuirs à l'intérieur, la qualité des matériaux, la qualité de l'assemblage et la douceur de roulement de ce véhicule-là, l'insonorisation, là, c'est mieux, c'est plus confortable qu'un RAV4 et c'est mieux insonorisé. Le seul bémol, je vous dirais, par contre, c'est le comportement routier. C'est sûr que l'ancien modèle, l'ancienne génération, on reprochait souvent au Tucson là, de manquer au niveau de la suspension que le train avant, là, l'essieu avant, l'essieu arrière, là, avait tendance à s'outiller. Ça a été réglé, mais on sent encore une petite affaire. Côté dynamique, ça pourrait être peut-être un petit peu mieux.
Ouais, mais ça, on ne vit pas dans un monde parfait.
Effectivement.
Hein? Mais d'après ce que je vois, il y a plus de pour que de contre. Puis toi, on parle souvent des sièges aussi. T'aimes ça quand c'est confortable.
Oui.
Et dans le cas de ce modèle, du modèle de ce nouveau Hyundai Tucson, qu'il soit hybride ou pas, là, change pas grand-chose. Je pense que c'est les mêmes sièges dans tout ce genre de véhicule. Donc, ils sont confortables.
Extrêmement confortables. Et je vous dirais, moi, là, si on regarde aussi... Là, c'est sûr, comme tu disais, là, il y a des points positifs. Points négatifs, moi, ce qui m'a surpris, c'est les tarifs. Quand on parle d'échelle de prix. Pour la version hybride, là, c'est sûr qu'il faut mettre la main dans sa poche. Parce que si on regarde avec le moteur conventionnel, c'est un 4 cylindres, 2,5 litres, 187 chevaux, boîte automatique à 8 rapports. Je vous dirais que la puissance de ce moteur-là, je l'ai essayé brièvement, mais on va y revenir éventuellement. La puissance me semblait un peu juste. Mais la fourchette de prix, c'est de 28 000, si on arrondit, à 37 000. Si on y va avec l'hybride, ben là, ça commence à 39 000 $ jusqu'à 42 000 $ Donc...
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Ben, je vous dirais, vous allez sauver au moins... Ben, oui, ça vaut la chandelle, parce que vous allez... Ça dépend, si vous faites beaucoup de kilométrage annuellement, vous allez sauver, là, sur la facture, là, environ entre 25 et 30 %. T'sais, ça consomme 25 à 30 % de moins le modèle hybride que le moteur conventionnel. Puis là, il y a un troisième moteur qui s'en vient. Ça va être un hybride rechargeable qui va être disponible bientôt. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire environ une cinquantaine de kilomètres. Ça varie toujours entre 35 et 50 kilomètres. Ça sera vérifié éventuellement en mode tout électrique. Puis après ça, le véhicule devient hybride. Mais cela dit, je vous dirais, là, écoutez, j'ai fait du 6,5 litres au 100 kilomètres. Puis même des fois en bas de 6 litres au 100 kilomètres. Donc, c'est quand même excellent pour un véhicule.
Ben oui.
de cette taille.
Mm-hmm.
Et
bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a différents moteurs. Là. Si on prend le moteur conventionnel, toi, tu dis qu'il manque de pep un peu, quoi.
Il manque un peu de pep.
Une voiture de course, là.
Non, c'est pas une voiture de course, t'as entièrement raison. Par contre, ce qui manque, là, pour que ça soit vraiment un véhicule complet qui pourrait ratisser plus large au niveau de la clientèle, il lui manque peut-être comme le Ford Escape. Le Ford Escape offre un moteur turbo 2 litres de 250 chevaux. Peut-être qu'il lui manque ça, comme dans son attirail, là, dans son arsenal, un quatrième moteur. Vous allez avoir un moteur conventionnel de base, un hybride rechargeable et un moteur turbo un petit peu plus performant.
Vas-y.
Je voulais juste vous dire, pour ceux qui s'interrogent sur la motorisation hybride, ben c'est un moteur qui est connu là chez Hyundai et chez Kia. C'est un 4 cylindres turbo, 1,6 litres, qui jumelait un moteur électrique. Ça développe quand même là 226 chevaux. Là. C'est quand même puissant.
Oui. Vous, les chroniqueurs automobiles, vous parlez souvent, quand vous évaluez un modèle, de direction lente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, une direction lente, c'est ça. T'sais, tantôt, on comparait avec le RAV4. Moi, je vous dirais que une direction lente. C'est sûr que vous n'avez pas la direction d'une BMW. Une direction lente, moi, je vous dis, quand vous tournez le volant de gauche à droite avec un véhicule allemand, on parle de Volkswagen, notamment, hein, puis on parle aussi des BMW et compagnie, c'est une direction qui est directe. Ça répond instantanément. Dans le cas d'Hyundai, ben écoutez, ça, c'est sûr que ça répond, mais il y a une petite lenteur. Il y a une petite lenteur qui fait que ça va jouer un petit peu sur l'agrément de conduite.
À ce point-là, oui.
Ben à ce point-là. C'est parce que c'est sûr qu'on mesure on compare un modèle à l'autre.
Mm-hmm.
C'est sûr que si moi, c'est sûr que je change de véhicule à toutes les semaines, là, peut-être que je vais m'en rendre compte davantage, mais quelqu'un qui roule avec son véhicule à tous les jours, à un moment donné, c'est sûr qu'on s'en rend pas compte, là, tu sais, je veux dire.
C'est pas ce point-là significatif pour des gens comme nous qui n'avons pas tes connaissances.
Ben, on pourrait peut-être le dire comme ça. Par contre, il y a quelque chose que les gens vont se rendre compte assez rapidement, s'ils sont habitués avec un véhicule conventionnel, là, qui est non hybride, ben, c'est la pédale de freinage. Mm-hmm. Le dosage, là, au niveau de la pédale, là, ça prend une certaine accoutumance, une certaine habitude pour apprécier puis pour bien contrôler le système de freinage.
Mais ça, avec le temps, on s'habitue.
Exactement.
Hein, il vient un temps où on connaît les réactions de notre véhicule.
Effectivement.
Mais au niveau de la sécurité, ces choses-là,
il n'y a pas de problème.
Aucun problème.
Non. C'est juste que, tu sais, c'est un véhicule hybride, parce que le système de freinage sert à récupérer d'énergie pour recharger la batterie.
Mm-hmm. Hein.
Ça fait en sorte que le système les freins vont réagir différemment là, d'un véhicule conventionnel.
Parfait. Alors, c'est un modèle, donc, le modèle de base, ça part donc à 28 000 jusqu'à 35 000 $ avec un moteur conventionnel. Et comme tu le disais, mais des fois, la facture augmente avec le système hybride, donc de 38 000 à 41 000. Il n'y a pas de subvention pour ça. Hein?
Non, il n'y a pas de subvention.
Non.
Par contre, il va y avoir une subvention pour l'hybride rechargeable lorsque le véhicule sera commercialisé. Il fut une époque, vous aviez une subvention qui a atteint, je pense, 1 000 $ dans le cas des véhicules hybrides. Par la suite, ça avait été réduit à 500 $ mais maintenant, là, c'est...
Parfait.
Il n'y en a plus.
Excellent. Ben, j'ai vu le nouveau... je l'ai vu, ce nouveau modèle. Effectivement, c'est très... on peut dire que c'est un modèle esthétiquement là bien réussi. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, c'est la nouvelle Hyundai Tucson hybride. J'imagine qu'elle est déjà disponible chez tous les bons concessionnaires.
Effectivement.
Bon, parfait. Alors, on va faire une pause si vous avez des questions pour Jean-François. Ben, après la pause, il sera là pour y répondre. Notez bien les numéros de téléphone à composer qu'on vous donne dans quelques secondes à peine. À tout de suite.
Voici Jacques Fabi.
Bon, alors nous sommes toujours en compagnie de Maître Jean-François Gay. C'est la chronique automobile Prendre la route, le dernier segment de l'émission. Toujours là, Maître Gay.
Oui, Maître Jacques.
Toujours avec ContraventionExpert.ca. Je sais que des fois, vous recevez des appels de gens un peu ébranlés par des contraventions qu'ils ont reçues, qui veulent de temps en temps les contester pour toutes sortes de raisons. Alors là, vous êtes quelques avocats. associer ensemble pour défendre du mieux que vous le pouvez et à peu de frais.
À peu de frais, comme tu le dis si bien, parce qu'on peut pas charger un très gros prix.
Non.
Dans le sens que des contraventions. Parce qu'il y a des contraventions qui s'en viennent salir, là. Pour ceux qui ne le savent pas, un cellulaire au volant, c'est 5 points d'inaptitude. C'est 300$ d'amende plus les frais. Ça fait 480$. C'est pas donné, ça. Et je te dirais que c'est de plus en plus répandu. Puis moi, souvent, je vais donner le bénéfice du doute. Hein. Si le client, moi, me dit j'étais pas au cellulaire, le policier a mal vu. Il y a des cas, c'est des cas flagrants, on s'entend. Mais il y a des cas, quand tu regardes le rapport policier, tu regardes la version de l'accusé, si on peut s'exprimer ici, là, du défendeur plutôt, ben je vous dirais que des fois, il y a lieu peut-être là, à contester.
Avez-vous tendance à gagner ou c'est pas facile?
Ben c'est sûr. Faut faire attention à ce qu'on dit.
Une question piège.
Moi, je vous dirais, là, je te dirais, genre, que c'est chaque cas est un cas d'espèce. Tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui nous appellent, « Ah, c'est quoi le pourcentage de réussite? » Le pourcentage de réussite, ça n'existe pas.
Ouais.
Chaque cas est particulier.
Mais c'est ça. Mais il y a des gens qui prennent ça à cœur. C'est-à-dire, pour eux, c'est très important. Moi, nous, on travaille pas avec notre véhicule.
Ouais.
Hein, on pourrait toujours s'organiser autrement, prendre l'autobus, prendre le métro, bon. Mais il y a des gens pour qui c'est essentiel de ne pas perdre leur permis de conduire pour continuer, poursuivre leurs activités. Alors, quand ces gens-là reçoivent une contravention, où ils ont fait quelque chose de pas correct sur la route, ben évidemment, là, s'ils perdent leur permis de conduire pour un an, ils sont dans la merde. Hein?
Ben c'est sûr, parce que si on regarde, il y a des gens là qui font de la livraison. Hein, on sait avec la pandémie, il y a de plus en plus de gens des travailleurs qui font de la livraison. Et puis ceux qui n'ont jamais de contravention, ben souvent, les autres vont se critiquer. Ah ben c'est dans le sens que c'est un privilège d'avoir un permis de conduire. Mais quand on est toujours sur la route, on fait de la livraison dans les villes, ben ça arrive à l'occasion, peut-être qu'un stop, c'est un stop, faut vraiment barrer les quatre roues là, pendant quelques secondes.
Ouais.
Ben, quand tu fais la livraison, des fois, le patron t'appelle, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre pas, t'as le client m'appelle. Fait que les gens, ben coudonc, ils se font arrêter pour un arrêt obligatoire qu'ils ont pas fait. À un moment donné, ils n'attrapent un deuxième, un troisième. Oh, là, ça devient... Ils sont en train d'hypothéquer leur permis de conduire. À ce moment-là, ben on va tenter là, de les aider là, pour sauver leur emploi.
Parfait. Alors, ça s'appelle contraventionexpert.ca. Donc, on peut retrouver toutes les informations sur l'Internet, je crois.
Exactement.
Parfait. Nous allons prendre un premier appel. Nous allons parler... Est-ce que c'est M. Michel?
Oui.
Oui, monsieur, on vous écoute. Une question pour Jean-François.
Hey, j'aurais une question concernant une voiture que j'aimerais acheter.
Oui.
Dans le fond, le gars, là, il vend son char, là, et il y a à peu près 10-15 000 kilomètres, là.
Ouais.
Il l'a gardé, ça fait longtemps. C'est un Dodge Neon 95, 4 portes sport, puis il me le vendrait 1 000$. C'est trop cher.
C'est pas cher, monsieur. Vous me dites qu'il y a 10-15 000 kilomètres?
Oui.
Il s'en servait pas?
Non, il l'a gardé dans le fond de sa grange, puis il s'en servait pas bien.
Ben là, dans le fond de la grange, monsieur, soyez prudent, là, parce que c'est un véhicule qui peut avoir rouillé, il peut avoir bien des problèmes, là.
Est-ce que vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu, il est bien propre. Là.
Ah oui?
Bon, ben, c'est sûr qu'à 1 000$, c'est pas cher, là. Ouais.
OK.
C'est deux paiements sur une voiture neuve, ça.
Ça pourrait être un bon achat si je me couche en dessous et il n'y a pas trop de rouille.
Ben c'est sûr. Si vous connaissez la mécanique, là, vérifiez ça.
Est-ce que vous l'avez essayé?
Non, je n'ai pas encore essayé. Je voulais m'informer.
Ce serait peut-être une bonne idée de lui demander des clés, faire un petit tour. Sortez-les de la grange.
Oui.
Ben soyez prudent, monsieur. Là. Si ce véhicule-là n'a pas démarré depuis des années, je ne sais pas, là, c'est quoi, là, l'état du véhicule, il faut vérifier l'essence. L'essence, là, c'est pas éternel, hein, je veux dire. L'essence, là. Si le véhicule était stationné, là, moi, je sais pas, depuis 5 ans ou plus, qu'il n'a pas bougé, ben, il risque, là, d'avoir des petits problèmes, là. Soyez prudent. Si vous voulez l'acheter, si vous voulez le démarrer, puis ça fait plusieurs années que ce véhicule-là, le moteur n'a pas démarré, là, soyez prudent parce que vous allez causer des dommages. Ça va vous coûter plus cher que 1 000$ réparer tout ça, là.
OK, OK.
Mais là, il faudrait qu'il fasse... Excusez-moi, il faudrait qu'il fasse quoi, Jean-François? Mettons qu'il décide d'acheter le véhicule. Il doit enlever le vieil essence que dans le véhicule?
C'est là que ça devient problématique, là. Écoutez, moi, je vous donne des trucs comme ça. Si vous êtes vraiment acheteur, tout ça, ben peut-être que... Si le véhicule, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas démarré, moi, puis vous allez l'acheter, vous êtes sûr de votre coût, ben peut-être ça vaudrait la peine peut-être de faire remorquer au garage le plus près, puis eux autres, ils vont vérifier l'état du véhicule avant là avant que vous démarriez le moteur. Là, parce que, tu sais, on parle d'essence, il peut y avoir d'autres problématiques aussi, là. Les freins sont-ils collés?
Rappelez-moi le modèle que vous voulez acheter, monsieur.
Néon 95 Sport.
Un Néon 95 Sport. Puis quelle année? 95, oui, donc, Sport.
C'est un véhicule qui a 17 ans, si je calcule bien, plus que ça.
Mm-hmm.
Ça fait 25 ans. Ça va... Le véhicule va avoir 20 ans bientôt. Ouais.
Alors, je comprends, Jean-François, que c'est pas le genre de modèle qui prend de la valeur en vieillissant.
Ben, c'est un... Non, c'est un véhicule où qui ont eu beaucoup de problèmes à l'époque, là, le Néon. Ça avait fait tout un tabac quand ce véhicule-là a été dévoilé, mais finalement, c'est avéré un fiasco au fil des ans. Mais cela dit, écoutez, à 1000 $ si le véhicule a seulement 10, 15 000 km, c'est pas beaucoup, mais ça veut rien dire. Parce que s'il a dormi dehors, dans la grange, dans une grange non chauffée, humide pendant des années, ben, peut-être, là, que... Même s'il y a juste 10, 15 000 km à l'odomètre, ben, peut-être que, dans le fond, il est plus âgé que ça, là, à cause de la façon qu'il
est. Mais en même temps, comme il lui vend pas très cher, il peut aussi peut-être, je sais pas, monsieur, rappelez-moi votre nom, Michel, peut-être que vous pourriez investir un peu d'argent, là, pour le remettre sur pied, si je peux dire.
Ouais, mais il faut faire attention, parce que ça peut aller vite, là, au niveau de la facturation.
À ce point-là, oui.
Ben, c'est ça, là. Si vous payez juste 1000, mais si vous êtes obligé de mettre plusieurs milliers de dollars, pour le mettre, pour faire la mise au point, là, pour que le véhicule soit puisse rouler en toute sécurité. Là.
Ouais.
Il y a des choses à vérifier, monsieur. Ouais.
Alors donc, Michel, la morale de l'histoire, c'est que soyez prudent, puis ça vaut peut-être la peine de... Je sais pas si vous êtes un expert, mais d'amener quelqu'un qui connaît ça, et peut-être que cette personne pourrait vous conseiller, même si, parce que c'est pas cher, c'est un véhicule qui est probablement très très tentant. Là.
Je te remercie bien, monsieur.
Parfait, monsieur Michel. Michel qui travaille pour la compagnie Cascade. Oui, alors je vous remercie, Michel, d'avoir téléphoné. Question des auditeurs, Jean-François. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que Kia et Hyundai, c'est la même compagnie? On pose souvent cette question-là.
Oui, c'est devenu la même compagnie. Hyundai a acheté Kia. Et ces deux divisions, là, un peu, si on regarde, là, il fait une époque, vous aviez Ford, Mercury. Si on regarde aussi, vous aviez Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile. Tu sais, c'est un peu ça, là. Ils partagent les mécaniques, ils partagent les plateformes. C'est sûr qu'au niveau du design, les véhicules vont être différents. Il va y avoir aussi des usines qui vont être différentes. On ne va pas fabriquer au même endroit. Mais cela dit, tu sais, l'intérieur aussi. Mais outre ça, les composantes mécaniques, électroniques, etc., c'est du pareil au même.
C'est la même gang.
C'est la même gang.
Est-ce que, en sous-question, Genesis, est-ce que ça appartient à Hyundai ou à Kia?
À Hyundai. Parce que c'est Hyundai, le grand patron, si on veut, c'est Hyundai, qui est propriétaire de Kia. Et Hyundai a créé la marque Genesis, comme Honda à Acura, puis Toyota Lexus, puis... Nissan Infiniti.
Ouais. Le monsieur qui m'a écrit parle de Genesis en me disant ce sont de maudites belles voitures, mais il s'inquiète un peu de la revente. Tu sais, c'est quand même pas ça a pas la réputation d'être une BMW ou une Mercedes ou une Audi. Et on sait que Genesis, moi je les trouve bien belles, j'en vois de temps en temps. J'en vois pas beaucoup, mais j'en vois de temps en temps. Alors, c'est la question des fois que les gens se posent avant d'acheter ou de se laisser tenter par ce genre de véhicule, au niveau de la fiabilité, puis deuxièmement, est-ce que la revente est bonne pour ce genre de véhicule, comme Genesis, par exemple?
Ben, au niveau de la fiabilité, on va juste revenir à tantôt au sondage de J.D. Power sur la qualité initiale des véhicules. Genesis, là, se classe en 6e position.
Bon,
donc, je dirais qu'il est en haut de peloton. Hein?
Ouais.
Deuxième des choses, concernant la valeur de revente, c'est sûr que vous n'allez pas avoir la valeur de revente d'une Mercedes ou d'une BMW. Par contre, vous allez payer moins cher à l'achat. Donc, il y a des calculs à faire. ce genre de véhicule-là, si vous vous changez de véhicule à toutes les 4-5 ans, puis vous achetez, ben à ce moment-là, ça serait peut-être la meilleure option, ça serait peut-être de louer.
Mm-hmm.
Donc,
ah,
en louer. Ouais. Ben, mais ça va toujours vous faire des paiements quand même. Mais.
Ah, ça, monsieur, la vie est un éternel paiement, monsieur Guy.
Oui. Mais, mais il faut s'entendre. Là, parce que si on regarde une Mercedes à 100 000 ou une BMW, là, je donne un chiffre de même, là. Mais on vient pour revendre ça dans 5 ans plus tard, là. Vous allez perdre. La dépréciation va être là, là. Je veux dire, tu sais, si vous payez une Genesis 80 000 alors qu'une BM se vend 100 000, mais si vous la revendez dans 5 ans, peut-être qu'une, la Mercedes va valoir 50 000, l'autre va être peut-être 30 000, mais vous allez quand même avoir payé 20 000 de moins au départ. Là.
Parfait, merci des renseignements. On doit s'arrêter. J'aurais aimé ça prendre davantage d'appels, mais on n'a pas le temps. On s'en prendra, non pas lundi prochain ou mardi prochain, mais peut-être mercredi prochain, parce que la semaine prochaine, bien sûr, ce sera soirée d'élection, et j'ai l'impression que ça va finir assez tard.
Oui, je pense que ça va finir très tard, sinon...
Puis peut-être que ça finira pas pantoute non plus.
Ben avec le vote par correspondance.
Ben c'est ça,
là.
Exactement, par la poste, ça risque... Peut-être qu'on n'aura même pas le soir du 20 le nom du gagnant. Enfin, on en reparlera.
Okay, donc, on se reparle mercredi prochain.